Alors, on reprend notre parcours dans l'épître de Paul aux Romains. Donc, on est arrivé au chapitre 5. Donc, on a mis que 6 mois pour faire les 4 premiers chapitres des Romains. On va reprendre. On avait quand même fait une pause pendant l'été. Et donc, quand on arrive aux Romains 5, c'est une toute nouvelle section qui commence. Donc, une nouvelle section de l'Épître, et il y a deux façons de l'expliquer. Donc, on va dire que la première section, c'était du chapitre 1 au chapitre 4. Ensuite, c'est de 5 à 8. Puis, une nouvelle section de 9 à 11, et une autre de 12 à 16. Donc, si on est parti pour ça, d'ici début 2017, on aura fini avec les Romains. Je ne sais pas si on va faire une coupure, mais en tout cas, c'est une nouvelle section de l'Épître qui commence. Il y a deux façons de l'expliquer, de démontrer ça. Une première façon, c'est de dire, attends, tu es allé trop loin, reviens, voilà, on reste avec ça. C'est une section qui commence en utilisant beaucoup le mot « nous ». Parce qu'au début, le premier chapitre, Paul utilise beaucoup le « je ». Je vous écris, je n'ai pas honte de l'Évangile, j'ai le projet de venir vous voir, etc. Donc, c'est beaucoup dans le jeu. Ensuite, dans le chapitre 2, c'est beaucoup plus dans le tu et le vous, pour un peu s'attaquer aux personnes qui se croyaient justes. Toi qui te donnes le nom de juif, mais qui ne fait pas ce que... Non. Qui ne pratique pas ce que tu prêches, par exemple, et toi, le païen qui obéit à la loi, c'est déjà bien, enfin, c'est le tu et le vous. Ensuite, les chapitres 3 et 4, c'est plutôt la troisième personne, donc il explique l'évangile et comment on peut être sauvé, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés. Le Romains 3. Puis du chapitre 5, il passe beaucoup plus à la première personne du pluriel, nous, c'est-à-dire lui, les juifs, les non-juifs, les chrétiens de Rome, pour dire, voilà, on va parler de notre vie chrétienne. Donc, et ça, c'est la deuxième façon de comprendre que c'est une nouvelle section, parce que toute la première partie, donc c'est la petite révision de la rentrée, à parler de la justification. Donc la justification, ça veut dire que Dieu nous déclare juste. Donc nous sommes justes à ses yeux, malgré notre péché, parce que c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Et le chapitre 1, 18 au 3, 20, c'est le besoin de justification, avec la conclusion, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et du chapitre 3, 21 à 4, 25, c'est le moyen de la justification, donc par la croix, par le sang de Jésus. Donc, voilà où on en est. Paul a bien expliqué que pour être en règle avec Dieu, il faut se reconnaître malade et s'adresser au médecin, autrement dit, se reconnaître pécheur et s'adresser au Sauveur. Ok ? Ça, c'est du chapitre 4. Maintenant, à partir du chapitre 5, si je reste avec cela, ce n'est plus le besoin d'être justifié ou le moyen de la justification, c'est les conséquences. Maintenant, celui qui a cru en Jésus comme étant son Sauveur et Seigneur, comment il va vivre en tant que chrétien? Donc voilà, on est parti maintenant sur un tout autre sujet qu'on peut appeler la vie chrétienne ou la vie de disciple. Et dans ce texte que nous allons lire, il y a 4 affirmations avec « nous » que l'on va passer en revue pour voir. Donc, nous, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on est chrétien? Alors, je lis chapitre 5, de 1 à 5. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, vous voyez beaucoup de nous dans ces quelques versets. Donc, première affirmation. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, j'insiste sur ce que je viens de dire. Les tout premiers mots de ce chapitre 5, dans toute cette nouvelle section, étant donc justifiés par la foi. Donc voilà, c'est le petit clin d'œil au chapitre 1-4. Puisque nous sommes justifiés par la foi, qu'est-ce qui en découle? Première chose, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La paix avec Dieu. Bon, il est vrai que la recherche de la paix est une préoccupation humaine universelle. Et chaque fois qu'on entend les informations, on parle de guerre ou de paix, etc. C'est une préoccupation sur le plan international, sur le plan national, sur le plan personnel. Parfois, les gens m'ont dit, c'est la guerre au bureau en ce moment, donc on a aussi besoin de paix, parfois, même au lieu de travail, ou dans les familles, ou parfois avec des voisins difficiles, etc. Donc on cherche la paix. Mais, ici, c'est la paix avec Dieu. Et le chrétien reconnaît que le préalable de la paix et le socle de la paix, c'est la paix avec Dieu, ce qui est le plus important du tout. D'autant plus que, j'anticipe un petit peu la suite de ce chapitre, au verset 10, il est dit « Si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. » Donc, comprendre qu'on a la paix, le préalable, c'est de comprendre que sans le pardon, on n'a pas la paix. Parce que justement, nous sommes ennemis de Dieu, ennemis dans le sens où on est devant le choix, un choix de tous les jours, un combat de tous les jours pour chacun de nous, qui décide. C'est moi qui décide de ma vie ou c'est Dieu qui décide. Je fais comme lui il veut ou je fais comme moi je veux. Donc, sachant que la vraie liberté, pour reprendre le mot que Rémi Sept a prononcé dans sa prière, la vraie liberté, c'est de faire ce que Dieu veut. Parce que finalement, on est le plus libre quand on fonctionne comme cela. Et le résultat de cette justification, on va aller plus loin, c'est d'abord donc la relation avec Dieu. Donc, c'est absolument fondamental. La vie chrétienne n'est pas simplement « je vais à l'église, je lis la Bible », c'est le but, c'est avoir une relation à développer avec Dieu. Donc, une relation que l'on va vivre, j'ai mis Jean 17, verset 3, qui dit « la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus ». Donc, de connaître Dieu, ça veut dire que dans la pratique de tous les jours, dans tout ce que je fais, je le vis sous le regard de Dieu et en relation avec lui. Et donc, Dieu ne nous traite pas comme des robots, comme des automates. Il faut aussi accepter cette paix avec Dieu et cette relation avec lui. J'ajoute deux choses. D'abord, que cette paix, c'est le mot « shalom » en hébreu, et c'est un des thèmes récurrent dans les prophètes. Je ne fais que citer un texte assez connu dans Ésaïe chapitre 9, et les versets 5 à 6. Donc, un texte qu'on lit souvent à Noël. Hein. Donc, on s'approche de Noël. Hein. On n'est plus qu'à 4 mois maintenant. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, prince du shalom. Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Donc c'est la promesse messianique que nous attendons toujours, parce que nous avons le déjà, mais le pas encore. Nous avons déjà la paix avec Dieu, mais pas la paix entière pour toute la création. Donc ça viendra. Mais donc cette paix est une promesse messianique, le shalom messianique. Et cette paix, malgré tout, même dans la vie de tous les jours actuellement, c'est la question de la confiance. Philippiens 4, 6 à 7, qui dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc cette paix est à la fois une paix fondamentale. Nous sommes enfants de Dieu. Dieu est devenu notre Père alors que nous étions ennemis. Mais cette paix se vit dans la vie de tous les jours. Il y a un verset que j'aime énormément. Je l'ai retrouvé il y a bien des années quand je passais mes examens, quand j'étais étudiant encore. C'est 1 Pierre 5 qui dit: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est un des versets auxquels je reviens très très souvent, chaque fois devant les soucis. Seigneur, je me décharge sur toi de tous mes soucis, car toi-même tu prends soin de moi. Donc ça, c'est la paix que nous avons qui découle de la justification. Et c'est énorme. Parce que dans le monde autour de nous, qu'est-ce qu'il y a comme soucis, angoisses, en tout genre? Le chrétien peut les vivre. Je ne suis pas en train de dire que, comme quelqu'un m'a dit une fois, si on a un souci, c'est qu'on est en train de pécher. Ce n'est pas ça. Mais c'est qu'on n'est pas en train de rentrer dans tout l'héritage qui découle de la justification. Donc c'est à vivre tous les jours et à faire mieux tous les jours. Donc apprendre la confiance. La confiance, c'est un des quatre éléments, pour moi, de la vie du disciple. Donc voilà la première chose qui découle. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxième affirmation avec nous. Par Jésus, nous avons accès à ce don gratuit de Dieu et nous demeurons fermes. Donc ça, c'est la traduction du Semeur, du verset 2. Donc, nous avons accès à ce don gratuit, à cette grâce. Cette grâce, en fait, c'est la réconciliation avec Dieu et que nous acceptons par la foi. Donc, ça veut dire que, je vois que dans le... Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce soit le Semeur que j'ai lu. Peut-être pas. Non, ce n'est pas le Semeur. Le Semeur dit que cette grâce dans laquelle nous nous trouvons désormais établie. Ah, c'est ça, excusez-moi, j'ai mal lu mes notes. Nous sommes désormais établis où nous demeurons fermes. Dieu nous garde, Dieu nous protège parce que nous avons accès donc, à tout ce qui découle de la justification. Et nous pouvons y rester. Donc j'ai cherché des mots et j'ai trouvé ces mots-là pour essayer de l'expliquer. Cet accès donc, à tout ce que Dieu nous donne n'est pas sporadique, incertain ou précaire, mais constant, sûr et pérenne. Merci au site synonyme.fr qui est très bien, moi je trouve. Donc c'est là en fait cet accès. Il n'est pas sporadique, c'est pas des fois je peux connaître cette paix et tout ce qui découle et des fois non. C'est pas incertain ou j'espère bien. Ce n'est pas précaire parce que c'est acquis une fois pour toutes. Donc c'est constant, sûr et pérenne. J'aime beaucoup ce mot pérenne d'ailleurs. Cet accès est pérenne, on l'a toujours. Une fois maintenant que nous sommes chrétiens, on a toujours accès à cette grâce, à tout ce que Dieu veut nous donner, parce que nous avons accès au trône de la grâce, hein, comme dit l'Épître aux Hébreux. Donc, la deuxième affirmation, c'est que nous pouvons demeurer fermes, c'est sûr, c'est quelque chose d'acquis par la grâce maintenant que nous sommes chrétiens. Troisième affirmation. C'est toujours le verset 2. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et j'ai mis ce mot splendeur pour la gloire. C'est une autre façon de le dire. D'ailleurs, c'est marrant, je l'ai noté tout à l'heure, dans le texte que tu as lu, c'est marqué dans le psaume 91, je le glorifierai, ou dans la version qu'on a lue, je le comblerai de gloire. Je le comblerai de gloire. Donc Dieu veut nous combler de gloire. Le sommeur dit, pour ne pas nous tromper avec le verbe nous nous glorifions, notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Donc c'est notre fierté, on peut être fier, non pas à cause de nous-mêmes, c'est par l'orgueil. C'est la fierté. On est fier en disant, je ne sais pas, c'est comme une équipe de foot qui gagne, on peut dire, moi je suis fier de mon équipe. Moi je n'ai rien fait. C'est l'équipe qui l'a fait. Mais je suis fier de ce qu'ils ont fait. Je suis fier de ce que Jésus a fait pour moi. Donc je me glorifie, je trouve donc, ma fierté là. Et donc, nous avons l'espérance de la gloire de Dieu. Je trouve que c'est un mot, bon, peut-être on ne réfléchit pas assez à ce mot gloire. Tout ce qui est glorieux. C'est pour ça que j'ai mis la splendeur. Par le hasard de la lecture, là où j'en suis dans ma lecture quotidienne, hier, je lisais le chapitre dans Ézéchiel où la gloire de Dieu quitte le temple. La Shekinah, hein, le mot hébreu. La gloire quitte le temple. Ce qui est bizarre d'ailleurs, c'est que le mot en hébreu veut passer la notion de quelque chose qui est lourd, en fait. La gloire, c'est tout ce qui est lourd. Pas parce que c'est lourd à porter, mais dans le sens où les autres choses sont légères, n'ont pas beaucoup d'importance. Tout le reste de la vie, c'est léger. L'insoutenable légèreté de l'être. C'est un roman. Mais Dieu, c'est du lourd, on va dire. C'est du lourd, parce que sa gloire, c'est la chose la plus splendide et la plus magnifique partout dans l'univers. Et on en voit quelques reflets de cela dans sa création, dans ce qu'il fait pour nous, dans la vie que nous avons. Donc, on voit quelques reflets. Et c'est pour cela que nous nous glorifions, nous trouvons notre fierté, pas dans la gloire de Dieu, mais dans l'espérance de la gloire de Dieu. Parce que cette gloire, nous ne la connaissons pas encore totalement, mais c'est quelque chose que nous commençons à entrevoir comme un fruit de notre justification, mais on attend. Je vais juste revenir en fait au premier chapitre des Romains pour dire que c'est un élément que je n'avais pas signalé tout à l'heure, mais le mot gloire traverse ces premiers chapitres. Romains 1 et le verset 21. Qui dit que ayant connu Dieu, les êtres humains ne l'ont pas glorifié, donc n'ont pas reconnu sa gloire, et ne lui ont pas rendu grâce. Et puis au verset 23, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Donc, plutôt que de glorifier Dieu pour sa gloire, ils ont transféré cette adoration sur l'homme, sur les créatures. Donc, comme il dit un petit peu plus loin, au verset 25, ils ont adoré et servi la créature au lieu du créateur. Donc, Donc on voit déjà ce mot gloire, hein, donc la gloire qu'ils ont rejetée. Ensuite, Romains 3, 23, un verset que l'on connaît bien, je me souviens des premiers versets bibliques que j'ai appris après ma conversion. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc à partir du moment où on n'est plus chrétien, on n'est pas chrétien, on a péché, on n'a pas conscience de cette gloire. Et puis, Romains 5, 2, on revient à ce verset, que maintenant, nous trouvons notre fierté dans l'espérance de cette gloire. Donc on retrouve en tant que chrétien cette notion de la gloire de Dieu. Et je pense qu'il y a deux aspects de cela. Le premier aspect, à l'avenir, c'est que les chrétiens retrouvent la gloire. D'abord, ils rendent gloire à Dieu. C'est le contraire de Romains 1 qui dit qu'il ne voulait pas rendre gloire à Dieu. On rend gloire, ça veut dire on reconnaît cette gloire et on lui dit merci pour cette gloire et on l'adore pour cette gloire. Et la deuxième chose, c'est qu'il va entrer dans cette gloire. Il la connaîtra, et là je vais peut-être citer un seul verset d'un chapitre que j'ai déjà mentionné ce matin, Jean 17. Donc la prière de Jésus pour ses disciples et pour ceux qui croiraient en lui à cause de leur témoignage. Jean 17, verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Donc, on a, comme on dit, quelques reflets de cette gloire. On commence à la voir un petit peu quand on ouvre les yeux et on voit la création. On voit parfois chez les frères et sœurs un petit reflet de cette gloire. Et parfois, on peut le vivre. Mais un jour, parce que Jésus l'a demandé dans sa prière, qu'on sera avec lui pour qu'on voit sa gloire telle qu'il l'avait avant la création du monde. Ça, c'est du lourd, notre espérance, de voir la gloire de Jésus un jour. Ok, ça c'est la troisième affirmation. Jusque-là, tout va bien. La quatrième, là, on passe. Nous nous glorifions dans nos afflictions. Waouh. Là, on préfère. Je pense qu'on aurait préféré terminer à la fin du verset 2. Mais du verset 3 à 5, on se réjouit aussi. En attendant ces gloires finales, nous vivons dans ce monde. Donc, j'ai dit, en attendant la gloire finale, nous vivons les tracas. Bon, c'est le mot que j'ai mis. C'est peut-être pire, les tracas de la vie terrestre. Chacun de nous. Parce qu'on vit un peu à contre-courant. Certains... on en a pas mal parlé ces dernières semaines, par la persécution même. C'est les grands tracas, hein, donc les gens chassés de leur maison par des terroristes. Alors, qu'en est-il alors de cette révélation de la gloire de Dieu? Qu'est-ce que cela veut dire dans ce contexte-là? Donc, je crois qu'on va chercher donc un autre verset avant de revenir à ce qui est dit ici. C'est 2 Corinthiens 3, 18. Que l'on va lire parce que c'est un verset qui parle aussi de la gloire. Donc, nous tous, dans le visage découvert. Petite explication, parce que dans les versets précédents, il disait que il parlait de l'Ancien Testament où Moïse mettait un voile sur son visage à un certain moment. Nous n'avons pas de voile sur le visage, hein, donc on voit Dieu directement. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. Donc j'ai prononcé ce mot plusieurs fois tout à l'heure. On reflète, il y a des choses qui reflètent la gloire de Dieu. Donc nous, les chrétiens, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Donc, quelques pas, et c'est énorme. Jésus glorieux veut qu'on lui ressemble. On sera pas, on n'aura pas la gloire de Dieu, mais on en est bénéficiaire dans ce sens. Et c'est pour ça que j'ai mis le mot splendeur tout à l'heure. Tout sera splendide, on va dire. Tout sera splendide. Alors, qu'est-ce qui est marqué dans 2 Corinthiens 3:18, c'est que cette transformation que nous voulons vivre petit à petit dans notre vie, et justement d'étape en étape, de gloire en gloire, quand c'est marqué là. Donc c'est progressif, si on veut. Ce n'est pas le jour de sa conversion, on ne connaît pas tout, on doit grandir dans la foi. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous aider, et on va revenir à ça. Donc cette sanctification est progressive. Mais comment ça se passe? On reste chez soi, couché, rien faire, et cette gloire nous tombe dessus. C'est pas ce que j'ai lu. Ce que je lis, c'est que ça se passe par une progression, on peut lire. Ah, les afflictions nous apprennent la persévérance nous donne la victoire dans l'épreuve, et puis une erreur là, sur le truc, c'est l'espérance, excusez-moi, j'ai mal tapé la dernière ligne, c'est l'espérance, hein. Regardez pas ça, c'est l'espérance. On passe d'affliction, persévérance, victoire, espérance. C'est-à-dire que en passant par les difficultés, on prend conscience quelque part de la réalité de la vie chrétienne. Je me souviens, il y a quelques années, j'ai passé une soirée à Reims pour relancer les GBU à une rentrée. Et puis, bon, on a réuni un certain nombre de chrétiens. Et puis, une des personnes qui sont venues à la petite réunion, c'était un Chinois qui venait d'arriver à Reims. Et donc, on lui a dit poliment comme ça, alors comment ça se passe en Chine avec les GBU? Donc il dit, bon, ça se passe bien. Bon, il arrive parfois que la police vient nous interrompre, nous embarque au poste, et puis, alors, je vois les petits GBU aussi en français qui le regardaient, et après, il dit, bon, nous relâcher le lendemain. Et la semaine suivante, bon, on a recommencé la réunion. Pour lui, c'était normal. Et donc, j'ai eu l'occasion une fois de rencontrer le responsable des GBU chinois, et je dis, mais comment tu expliques le fait qu'il y a tant de conversions en Chine au cours des dernières décennies? Et sa réponse était assez intéressante. Il a dit, on a assez de liberté pour évangéliser et assez de persécution pour le prendre au sérieux. J'ai trouvé ça une explication très intéressante. Parce que quand, devant la difficulté, il y a deux choses. On baisse les bras pour dire, c'est pas normal. Ou bien, on dit, bon, ça doit être du sérieux parce qu'on se pose à moi alors que j'ai rien fait. Il y a même un psaume qui dit, je suis pour la paix, mais quand je suis pour la paix, ils sont pour la guerre. Et on ne sait pas pourquoi, on veut simplement apporter la bonne nouvelle, et puis on nous tombe dessus. Donc voilà, les afflictions nous apprennent donc la persévérance, et la victoire dans l'épreuve mène à l'espérance. Ce n'est pas une idée que l'on ne trouve pas ailleurs. La même idée se trouve, par exemple, donc on va citer deux textes. Le premier, c'est Jacques 1. Je ne vais pas lire 1 Pierre tout de suite, je vais revenir à ça après. Jacques 1, 2 à 4, qui dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez exposer, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, etc. » Donc c'est la même chose que dans Romains. Je me souviens une fois, j'ai entendu quelqu'un lire ce verset, dire, bon, ils sont fous ces chrétiens. Une joie complète parce qu'on a des épreuves. Mais ce n'est pas l'épreuve qui fait que l'on se réjouit. On ne se réjouit pas de l'épreuve, mais du fruit de l'épreuve. Et puis un autre verset, je trouve très intéressant, dans Actes, bon, on va sauter 1 Pierre, je vais revenir à ça. dans Acte 14. C'est le premier voyage missionnaire de Paul. Il fonde des églises à Derbe, à Lystre, à Icône, etc. Et puis, à la fin de son périple, il dit à Barnabas, bon, on va retourner voir les frères pour les encourager. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Verset 22. Je vais lire le 21 d'abord. Quand ils eurent évangélisé ces villes, donc cette herbe, et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà, c'est l'encouragement qu'il donne. Il y a beaucoup de tribulations quand on rentre dans le royaume de Dieu. Je ne suis pas sûr que c'est toujours le cas, mais là encore, j'entends des étudiants dire « Oh, c'est difficile !» Et un de mes équipiers disait toujours « Ah bah, acte 14, 22 !» C'est pas beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu, c'est comme ça. Donc, au moins, on est prévenu. Mais je reviens à Romains 5, parce que, justement, il dit que l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ce n'est pas trompeur parce que finalement c'est le moyen par lequel notre foi est affinée. Et c'est justement là que je voulais juste citer rapidement 1 Pierre, chapitre 1. Qui parle également des souffrances et qui dit que l'épreuve de notre foi, verset 7, cette foi qui est plus précieuse que l'or périssable aura pour résultat la louange de Jésus-Christ. Mais dit, même l'or périssable est éprouvé par le feu. Donc c'est une image que l'on retrouve dans la Bible. L'or, si on veut, il faut le chauffer à blanc pendant fèvre de fée. Et à ce moment-là, l'or devient liquide et les impuretés vont pouvoir monter à la surface. Puis on va enlever les impuretés. Donc plus on chauffe l'or, plus il devient pur. Vous voyez, là. Donc plus le Seigneur nous chauffe, en quelque sorte, on va dire, plus on enlève les impuretés. Franchement, j'aurais préféré parler d'autre chose ce matin. Mais c'est ça la réalité de la vie chrétienne. Et c'est une bonne réalité. Donc parfois, ce sont des choses difficiles à dire, parce qu'on a tous nos tracas personnels. Mais je ne sais pas si j'ai déjà cité cette phrase, mais je trouve que cette phrase est très importante. C'est un résumé en quelque sorte. L'épreuve forge notre caractère, parce que ce qui est important dans la vie, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la façon dont nous réagissons devant ces événements. Je trouve que c'est une bonne phrase à rappeler, qui résume, je dirais, Romains 5, Jacques 1, 1 Pierre 6, etc. On ne peut pas empêcher que les choses arrivent dans notre vie. Mais là où on peut agir, c'est la façon dont on réagit, en faisant confiance à Dieu. Et bon, on ne s'est pas concerté pour le culte ce matin, mais je trouve que la présidence et la prédication sont vraiment tombées sur le même thème. Il y a des choses qui arrivent et c'est avec la confiance en Dieu qu'on va faire face. Donc, dans tout cela, il n'y a pas de déception, d'auto-illusion, parce que le verset 5 le dit bien, que cette espérance ne trompe pas, parce que c'est à ce moment-là que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, et c'est grâce au Saint-Esprit. Et ici, au chapitre 5, verset 5, c'est la première mention du Saint-Esprit dans Romains. Et dans ces chapitres 5 à 8, on va à plusieurs reprises revenir à ce rôle du Saint-Esprit pour répandre cet amour de Dieu dans nos cœurs, parce que cette espérance que l'affliction produit, et cette persévérance et la victoire dans l'épreuve nourrit, donc ça c'est la traduction du semeur, nourrit notre espérance, et cette espérance est répandue dans nos cœurs, parce qu'on sent l'amour de Dieu pour nous, par le Saint-Esprit. Voilà. Je vais prier pour nous. Merci Seigneur pour la suite de ce texte qui nous donne de très belles promesses, que nous pouvons demeurer fermes, que nous avons la paix avec toi, mais qui nous rappelle aussi que nous sommes, que tu nous laisses dans ce monde, et c'est dans ce monde que nous voulons te glorifier et même profiter des difficultés pour apprendre à te faire confiance davantage chaque jour pour avoir la victoire dans l'épreuve. Et merci pour cette promesse que le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans notre cœur. Seigneur, aide-nous à nous rappeler que ce n'est pas ce qui nous arrive qui est important, mais la façon dont nous réagissons devant ces événements. Nous voulons te glorifier dans notre vie, nous sommes prévenus, tu nous préviens dans ce texte que c'est comme cela que ça va se passer, nous le savons déjà d'ailleurs, et Seigneur, que nous puissions nous glorifier en toi dans ces circonstances. Au nom de Jésus. Amen.